Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Jean-Marc Berthet, je suis sociologue. J'ai un double statut à la fois de consultant libéral et puis par ailleurs de professeur associé à l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Je suis prof à mi-temps dans le cadre d'un master qui prépare au métier pour aller vite du développement territorialisé de la politique de la ville. J'interviens ici au-delà de ce que vient de préciser Stéphane. En tant que un petit peu connaisseur des questions des politiques éducatives locales, du dispositif de réussite éducative, de tout ce qui fait un peu l'environnement de l'école et des dispositifs qui peuvent essayer ou aider à prendre en charge un certain nombre de difficultés que pourraient avoir des jeunes, des enfants, des élèves. Par ailleurs, je travaille pas mal aussi avec des travailleurs sociaux et je vais vous en dire quelques mots parce qu'il me semble qu'il y a des points de rencontre. Donc je travaille pas mal avec des travailleurs sociaux, je fais plutôt soit de conseils généraux, soit de caisses d'allocation familiale où je fais plutôt des formations, de la méthodologie de projet et à essayer de mieux faire collectif, ce qui sera un peu le fil rouge de mon intervention aujourd'hui. Alors, déjà, je vais commencer par un agacement qui est relatif à l'actualité. C'est la déclaration de notre ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas du tout une affaire de personne, hein, mais les bras m'en tombent chaque fois quand on nous dit que dans l'affaire des attentats meurtriers qu'on vient de vivre, l'école n'a pas été à la hauteur. Là, ça m'agace énormément. Alors, ça m'agace pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les deux frères Kouachi, ils ont été élevés à l'école de la République en Corrèze, à Meymac, placés qu'ils étaient dans une maison d'enfants à caractère social, et que donc leur scolarité n'a été nullement le fruit d'une école de banlieue. Il faut savoir ce que c'est que Meymac quand même, hein, perdu au fin fond de la Corrèze. Bon. Donc là, il y a quelque chose qui m'énerve un peu et qui est, me semble-t-il, assez symptomatique du sujet que je vais essayer de traiter, la question du décrochage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quand même le signe d'une grande confusion, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où l'école a une telle place que dès qu'il y a des grands problèmes de société, il faudrait que l'école soit en capacité de tout résoudre. C'est insupportable. C'est insupportable. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, ça m'insupporte. Ah bah, ça commence bien. Alors le deuxième agacement fait d'actualité, là aussi, alors là, les bras m'en tombent, puisque ça fait 25 ans que je travaille quand même sur les questions liées à la politique de la ville, c'est la déclaration de Valls sur l'apartheid. C'est lourd là aussi. Hein. L'apartheid, je le rappelle, hein, ça, l'expression vient de l'Afrique du Sud, c'est une politique instituée. Je ne sache pas que dans ce pays, la France, la République, a institué l'apartheid dans notre pays. Enfin, à un moment donné, les mots ont du sens. Et je crois que c'est notre difficulté, c'est la confusion des termes dans lesquels on est pris en permanence. Alors ça, c'est pour les agacements. Alors tout ça, ça produit un truc là, donc forcément on va nous refaire le coup, donc on vient de faire la refondation de l'école et on parle déjà de l'acte 2 de la refondation, enfin il m'a semblé avoir un écho de ça. Ça, ce sera le troisième agacement. C'est que l'école dans ce pays, depuis très longtemps, vit un chantier permanent. Voilà, c'est un chantier permanent, ce qui est un mode de gouvernement, hein. Le chantier permanent c'est un mode de gouvernement. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps et que quand même, globalement, tout le monde en a ras-le-bol que ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a un effet particulièrement délétère. Ça veut dire que cette école est irréformable puisque, de toute manière, les enseignants ne vont pas bouger en se disant « Ouh là là, attendons la prochaine réforme avant de faire quelque chose ». Et là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la manière dont les gouvernants pensent l'école, sa place et les réformes qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'on est avec ce chantier permanent dans une incapacité à penser ce que ça pourrait être une réforme tranquille, consensuelle, je ne sais pas, mais en tout cas apaisée de l'école. C'est-à-dire que systématiquement, on a une espèce d'avalanche de grands termes là, qui nous tombe dessus. Et qui fatigue un peu tout le monde, il faut bien le dire. Alors, ce que m'ont demandé Stéphane et Sylvie, c'est d'essayer de vous parler du décrochage. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut essayer de le déplier, ce terme, parce que là aussi, il contient beaucoup de choses. Pour moi, c'est au moins une machine à quatre temps, cette affaire du décrochage. Il y a l'idée de décrochage en elle-même qui est un processus, et je vais essayer d'y revenir. Ça, c'est un premier temps de la machine décrochage. Il y a un deuxième temps, c'est l'état du décroché. Hein, le jeune qui... je vais souvent parler des jeunes plutôt que d'élèves. Ça aussi, j'y tiens. On pourra en reparler dans les échanges. C'est l'état du jeune qui a vécu un certain nombre de difficultés et qui se retrouve dans une situation, et il faut bien appeler un chat, un peu conflictuelle avec les institutions, avec un grand I. Hein. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que quand on va parler troisième temps de la machine, des possibilités de raccrochage, il faudra faire avec cette difficulté de l'adhésion du jeune aux institutions. Et ça va obligatoirement passer par un travail important de médiation et d'accompagnement. Ce n'est pas une petite affaire. Je vous en rendrai peut-être compte à partir du travail qu'on est en train de faire là pour la région Rhône-Alpes sur l'évaluation de leur plan de raccrochage, justement, et des difficultés que ça peut engendrer pour les professionnels qui se coltinent à cette affaire. Et puis, le quatrième temps de la terme de la machine, c'est le raccrocher, quoi. Mais alors, celui-là, j'ai envie de dire, je vous en dirai pas grand-chose parce que c'est notre idéal et que, une fois qu'ils sont raccrochés, tant mieux pour eux et qu'on peut leur souhaiter de la chance pour leur avenir professionnel. Donc, je vais beaucoup insister sur le décrochage comme processus et l'idée de prévention du décrochage. À partir en particulier de travaux que j'ai menés ces dernières années en Isère, à l'échelle des collèges, et en animant des groupes de travail avec des enseignants, des principaux, des CPE, mais aussi les partenaires du collège, c'est-à-dire des animateurs de centres sociaux, des éducateurs de prévention spécialisés, les professionnels de la réussite éducative, enfin tout ce monde professionnel qui participe de la constitution d'une communauté éducative. Communauté éducative qui a quand même beaucoup de mal à se déployer pleinement, et je pense que c'est autour de ça aussi que je vais essayer de dire deux, trois choses. Alors, toute première remarque avant de rentrer dans le décrochage de quoi on parle, même si ce matin vous avez déjà eu des éléments, je vais peut-être essayer d'en apporter d'autres qui peuvent se recouper ou apporter d'autres éclairages. Il y a une chose qui me frappe, c'est que le décrochage comme politique publique n'est pas dans le mood des politiques publiques actuelles. C'est-à-dire que quand vous regardez les politiques publiques actuelles, elles ont une particularité, c'est que ces 10 dernières années, elles ont beaucoup travaillé à resémantiser leurs objets, ce que j'appelle la resémantisation de l'objet, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a parlé de lutter contre l'échec scolaire, puis maintenant, on parle de lutter pour la réussite éducative. Alors le décrochage, on parle encore de lutter contre le décrochage. Donc il y a un truc qui ne s'est pas opéré. Quand je me dis si c'est une priorité nationale, je pense que ce sera une priorité nationale quand on se mettra à parler de lutte pour le raccrochage. Il me semble qu'il y a un symptôme là de quelque chose. Si on compare à d'autres politiques publiques, pendant très longtemps, on a dit qu'on luttait contre les exclusions. En 1998, on fait une loi contre les exclusions. Puis en 2005, on fait une loi pour la cohésion sociale. Hein, on infléchit le discours. Là, on n'y est pas encore tout à fait. Alors, comment ça arrive, cette affaire ? Ce n'est pas nouveau en soi. Hein. La question du décrochage, on a dû vous le dire ce matin dans l'approche historique, mais je vais le répéter, elle n'est absolument pas nouvelle. C'est-à-dire que l'école, pendant très très longtemps, ne s'est pas posé la question du devenir scolaire et social d'un certain nombre de gamins. Ce n'était pas son affaire. Bon. Pendant très très longtemps, ça c'est le modèle historique, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que depuis le milieu des années 90, le phénomène monte. Alors il monte par des bonnes et des mauvaises entrées, par des bonnes et des mauvaises raisons. Il monte, il ne faut quand même pas le perdre de vue, c'est-à-dire qu'il y a une origine à la montée du phénomène, c'est la montée sécuritaire, hein. C'est le lien au sécuritaire. C'est les gamins absentéistes qui vont mettre la pagaille dans les quartiers. Enfin, c'est toute cette logorée qui a pu se développer et qui a amené un certain nombre de réflexions. Bon, ça, c'est une première montée. Je rappelle juste que quand on met en place les classes relais en 98, en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse, l'axe, il est vraiment prévention-sécurité, hein, prévention-délinquance. Hein, c'est ça, l'entrée, hein, forte. Bon. Ça, c'est une première entrée. Ce n'est pas forcément la meilleure et la plus intéressante, mais il ne faut pas la perdre de vue. Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire du décrochage, c'est que c'est une affaire tellement sérieuse qu'elle ne peut pas être laissée aux seuls enseignants, pense-t-on. Et je trouve que là, quand on regarde l'histoire d'un certain nombre de dispositifs, il y a un programme Nouvelle Chance qui va arriver en 99, qui amène la question du décrochage scolaire. Et puis, il y a la politique de la ville. En 2002, la veille éducative qui vise spécifiquement ce type de public. Hein. Malheureusement, cette veille éducative, elle a été très vite arrêtée, j'ai envie de dire, par l'arrivée en 2005 du dispositif de réussite éducative. Hein. Donc, si vous voulez, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a affaire à une question, un sujet qui est vraiment amené par différents canaux et par des canaux qui sont extérieurs à l'institution éducation nationale. La réussite éducative étant assez symptomatique de ça. Il me semble aussi que cette question du décrochage, alors si j'ai bien compris, c'est ce qu'on vous a dit ce matin dans l'approche historique, moi je suis assez d'accord avec ça. On a quand même dans les politiques publiques sur ces sujets des formes de création d'amnésie institutionnelle, quoi. La production institutionnelle de l'amnésie, c'est-à-dire qu'on réinvente la poudre en permanence, quoi. Et c'est quand même assez terrible, hein. Il n'y a qu'à voir ce que c'est que 35 ans d'histoire des ZEP. C'est une réinvention permanente de la poudre avec une institution qui n'a pas été foutue de s'approprier, de capitaliser quoi que ce soit autour des ZEP quand même, ou très peu. Je suis un peu critique là. Mais vous m'aviez mis comme titre « Approche sociocritique ». Bon, ok. Non, mais ça, c'est une vraie difficulté, l'absence de capitalisation. Et pour moi, c'est lié au bougisme permanent des politiques publiques. Quand je vous ai fait le chantier permanent, c'est ça. Qu'est-ce que ça crée, le chantier permanent? Ça crée de l'amnésie institutionnelle. Et c'est une véritable difficulté. Ce qui fait d'ailleurs que, fondamentalement, sur ces sujets-là, je pense qu'on en est encore, du point de vue de l'action, à ce que j'appelle du bricolage. Du bricolage. Il n'y a pas d'autre mot. On est dans la bricole. Bon. La bricole, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, ça épuise tout le monde. Hein? Mais j'y reviendrai. Alors, cette question du décrochage, elle arrive aussi par d'autres entrées. Alors, une entrée européenne quand même, parce que heureusement qu'il y a l'Europe, des fois, pour nous pousser un peu hein, les fesses, parce qu'on est bien mou sur certains sujets dans ce pays. Hein, la question des discriminations, s'il n'y avait pas eu l'Europe, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Hein. Donc la question du décrochage, elle arrive aussi via les politiques européennes, qui s'intéressent effectivement à tous ces jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification et qui se posent la question de leur devenir et qui en plus se disent ça commence à nous coûter cher l'affaire. Hein, puisque là, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, on évalue le coût d'un décrocheur à 200 000 euros. Je ne sais pas comment ils ont fait le calcul, c'est trop savant pour moi, mais enfin c'est le chiffre qui est sorti dans la presse il y a peu de temps. Hein. Et puis, il y a une autre entrée du décrochage, et là, qui est vraiment interne à l'école, c'est PISA, quoi. C'est PISA qui nous met la tête à l'envers, quoi. Hein? Alors, PISA, c'est très intéressant parce que c'est vraiment les contradictions de l'école, PISA. C'est-à-dire, en gros, notre école de la République, elle marche très, très bien pour un petit panier. Pour le haut du panier, elle marche très, très bien. Elle n'a jamais aussi bien marché, d'ailleurs. Elle est super performante. Mais alors, pour le bas du panier, on est très, très loin d'un certain nombre d'autres pays. Ce qui, à nous, bons républicains, nous fait mal parce qu'on pensait toujours être plus fort que les autres. Et là, non, on peine, là, on peine. Donc ça aussi, ça participe de cette montée de la question du décrochage. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne veux pas le définir. Ce que je veux dire, simplement, par contre, pour moi... ces histoires de décrochage, ça participe d'une réelle difficulté pour l'institution éducation nationale qui est la difficulté de la reconnaissance de la socialisation de la question scolaire, ce que j'appelle la socialisation de la question scolaire, c'est-à-dire que le décrochage, ça oblige l'école à prendre en compte la question sociale, ce qu'elle a toujours refusé de faire historiquement. Et ça, ce n'est pas une petite affaire, prendre en compte la question sociale. C'est quoi la question sociale? C'est comment une société traite ses marges et ses pauvres. Et la question du décrochage, elle oblige l'école à aborder frontalement la question de la pauvreté de certains publics. Dans une construction historique où l'élève, il est construit sur un modèle universaliste, donc on n'a pas à se préoccuper de sa condition sociale. Et ce n'est pas une petite affaire, ça. Alors, On sait, il y a eu tout plein de travaux là-dessus. Dès 99, il y avait eu un programme interministériel de recherche sur la déscolarisation qui avait produit un ouvrage sous la direction de Dominique Glassmann et Françoise Évrard, qui a été republié il y a quelque temps, qui était sorti en 2004, je crois, et qui vient d'être republié l'année passée. Donc il est toujours d'actualité ce travail si on l'a republié. On sait quand même qu'on a affaire à une notion qui est très difficile de définir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des concepts stabilisés. Là, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe des absences, ça englobe des problèmes de comportement, ça englobe des mauvais résultats scolaires, ça englobe des problèmes d'orientation. Enfin, on a un gros paquet là autour de ce terme qui n'est pas toujours évident de clarifier. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que cette affaire, elle s'origine de façon multifactorielle. Et ça, c'est une vraie difficulté si on veut essayer de la prévenir, c'est de penser le multifactoriel. Alors, le multifactoriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mélange de problèmes de comportement, de difficultés à rentrer dans les apprentissages, de réalités sociales complexes pour certains enfants au regard de ce qu'ils vivent dans leur famille ou dans leur quartier. Enfin, il y a comme ça tout différents niveaux d'analyse qui participent de la compréhension du phénomène et que si on rentre que par un petit bout, on risque de louper quelque chose. Donc forcément, ça oblige à une complexification de ce qu'on fait habituellement. Et ce n'est pas toujours évident. Après, on sait aussi là-dedans qu'il y a un point qui est très important dans ce processus, c'est les passages de niveau. On sait très bien que pour les gamins qui sont au collège, le décrochage s'est originé bien en amont du collège, plutôt en CE2, CM1, CM2, qui n'a pas été forcément pensé, vécu comme tel. D'ailleurs, quand on va rencontrer des jeunes décrocheurs, bien souvent, ils vous reconstruisent un parcours scolaire qui a plutôt tendance à mythifier un peu la scolarité au primaire, parce qu'ils n'avaient pas capté qu'il y avait quelque chose qui avait loupé dans le processus d'apprentissage. Et ça, tout de suite, ça donne une clé sur laquelle l'institution le dit depuis longtemps dans le cadre des REP, on l'a dit pendant des années, sauf que je trouve qu'on est quand même un peu mou en termes opérationnels. La clé, c'est comment est-ce qu'on articule ces passages de niveau, CM2, 6e en particulier, et que là, il y a un chantier assez énorme. Qui pose tout plein de questions. Une des difficultés, on le sait aussi, c'est que les gamins qui rentrent au collège ou les gamines qui rentrent au collège, on passe d'un enseignant à plusieurs enseignants, que on perd vite ses repères spatio-temporels et que l'entrée au collège, ça peut être une véritable désorientation, désorganisation de tous les repères antérieurs et que du coup, là, il y a quelque chose qui s'origine. Mais qui n'est pas toujours pensé comme tel. Dans ces histoires de décrochage, il y a un autre élément qu'il faut vraiment avoir en tête. Excusez-moi. C'est la relation aux pairs, à ce qu'on appelle les groupes de pairs. On a quand même affaire dans un certain nombre de quartiers de l'apartheid, donc nous dirait Manuel Valls. À des jeunes qui sont en classe, qui se connaissent de longue date, qui ont un parcours scolaire commun, qui sont rentrés en maternelle, puis après en élémentaire, et puis au collège, qui ont constitué des normes à eux en fonctionnement de l'entre-soi, qui se prolongent dans la classe, et qui n'est pas sans effet sur la manière dont ensuite ils construisent un parcours et une scolarité. Et là, il y a des effets de groupe, il y a des phénomènes de groupe qui sont pas rien dans la constitution de ce processus. Ce que je veux dire par là, c'est que on a affaire à quelque chose qui s'inscrit dans une espèce de triangle et qu'on ne peut pas penser à la question du décrochage si on ne pense pas ce triangle. Ce que j'appelle le triangle, c'est l'école d'un côté, les familles de l'autre, et puis la place des pères ou du territoire ou de l'environnement de l'école et de la famille. En gros, ce qu'il en est de la construction d'un adolescent ou d'une adolescente aujourd'hui. Et que penser le décrochage, c'est bien penser les relations du triangle. l'école, la famille. On ne peut pas déconnecter ça des questions familiales, bien évidemment. Mais aussi, on ne peut pas déconnecter ça de qu'est-ce que c'est que le vécu de ces gamins, étant entendu qu'on ne passe pas sa vie qu'à l'école. Et qu'il faudrait bien qu'on comprenne aussi qu'on a affaire à une jeunesse aujourd'hui qui apprend tout plein de choses en dehors de l'école, que l'école n'a jamais eu le monopole du savoir, mais qu'elle l'a de moins en moins. Et qu'il s'opère tout plein d'autres choses dans d'autres espaces. Et que si on ne les prend pas en compte, on va avoir un petit peu de mal à régler ce que j'appelle le multifactoriel. La dernière chose qu'il y a dans ces tentatives de clarifier un peu ce dont on parle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue, qui n'est pas tout à fait au clair ni honnête, autour de l'individualisation. C'est-à-dire qu'on est dans des tentatives de stratégie pour penser le raccrochage ou la prévention du décrochage, dans des tentatives d'individualisation. Et alors ça, pour moi, à la fois, ça peut être intéressant si c'est pensé en articulation avec la dimension collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à opposer individuel et collectif, ça marche ensemble. Mais ça, pour moi, ça m'évoque ce qui est une interrogation similaire, identique du côté du travail social, qui est le risque de la psychologisation de la difficulté. Il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, sur la médicalisation de l'échec scolaire et la montée de la médicalisation de l'échec scolaire, alors qui passe par la psychologisation du truc, etc., etc. Et moi, je pense qu'il y a un risque là dans ces stratégies d'individualisation. Bon, la réussite éducative dans le cadre de la politique de la ville a essayé un peu de réfléchir à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que si un jeune ne va pas bien dans sa scolarisation, je pense qu'à un moment donné, il ne va pas bien dans un groupe classe et qu'à un moment donné, je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'individualisation, mais qu'à un moment donné, ça ira mieux dans le groupe classe quand il reprendra aussi une place différenciée dans un collectif et qu'on ne peut pas faire fi de la dimension collective dans ses affaires. Bon. Alors, après ces longs préambules, je peux aller jusqu'à 15 heures, c'est bon ? Avant. Ce que je veux faire, c'est essayer de vous rendre compte de vous donner des points de synthèse du travail que j'ai fait avec différents groupes là, en Isère sur 3 ou 4 années. La toute première chose, c'est quand les professionnels sont confrontés au décrochage, très vite, c'est ce qui frappe, c'est le sentiment d'impuissance et de panne de l'action. Cette panne de l'action qui est dommageable pour tout le monde. Alors évidemment pour les enseignants les premiers concernés, pour les gamins concernés, pour leurs parents, hein, et pour, globalement pour tous les éducateurs qui peuvent graviter autour d'eux. Et qu'à partir de cette panne de l'action, bien souvent, on rentre par la qualification de ce qui est vécu comme un échec par tous. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une vraie difficulté parce qu'on ne traite pas l'échec en rentrant par l'échec. C'est un problème de méthode. On ne traite pas la difficulté en rentrant directement par le cœur de la difficulté. D'ailleurs, je trouve ça assez caractéristique quand on fait l'évaluation là, du plan de raccrochage où on ne cesse de nous parler dans les mises en œuvre concrètes de pédagogie du détour, comme par hasard. Hein, on essaye de contourner l'entrée stricte par la difficulté en disant si on rentre directement dans le dur, là, ça va être contre-productif. Hein. Donc il y a cette idée d'un sentiment d'échec qui vient perturber tout le monde et qui renvoie à des formes d'impuissance. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément très compliqué, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que le rapport au temps, on a toujours le sentiment que finalement, on voit glisser des élèves ou des jeunes. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et puis tout d'un coup, boum, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. On le savait, mais on n'a rien pu faire. Ce qui participe aussi de la panne de l'action, si vous voulez. Hein. Donc ça, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit quand même une très grande difficulté à anticiper, à essayer de mettre en place des stratégies préventives. Préventives. Ce que je veux dire, j'ai le sentiment qu'on est bien souvent dans de la réaction un peu dure. hein, et qu'il faudrait déplier un peu ce rapport au temps. On est dans la réaction, dans l'urgence. Excusez-moi, quand on bosse dans l'urgence, on ne travaille pas bien, c'est bien connu. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déplier le temps pour essayer de remonter à l'amont et commencer à construire quelque chose? C'est pas simple. C'est pas simple. Excusez-moi, je vais reprendre le fil. Dans ces travaux avec, je le redis, différents professionnels hein, qui, pour commencer, sont pris par ce que j'appelle la panne de l'action. Il y a, il me semble, différentes séries de tensions ou de brouillages qu'il faut arriver à lever, qui ne sont pas simples à lever. À lever collectivement, j'entends. Hein. Le premier brouillage, c'est vraiment assez fort, puisqu'on est dans le sentiment de l'impuissance, de la panne de l'action, de l'échec. Le premier brouillage à lever, c'est le brouillage qui est relatif à une double interrogation et à la manière dont on répond à cette double interrogation. Cette double interrogation, c'est de se demander est-ce que c'est aux élèves à s'adapter au fonctionnement de l'école ou est-ce que c'est à l'école à s'adapter à la réalité des élèves? Ben, je peux vous dire qu'essayer de mettre ça au débat entre professionnels, animateurs, éducateurs, enseignants, vous avez du boulot là. Hein, on va pas, voilà. Et pourtant, pour moi, c'est déterminant cette question-là parce que s'il n'y a pas un accord entre tous par rapport à cette question-là, on va avoir du mal, parce que c'est du rapport à l'institution dont il s'agit derrière. Hein, et c'est de la manière dont on envisage les institutions derrière. Si elles s'imposent au public ou si elles essayent ou pas de prendre en compte les spécificités de ces publics dans une institution qui, je le rappelle, a été construite sur un modèle universaliste. Donc, historiquement, on n'avait pas à s'intéresser aux spécificités des publics. Bon, ça, c'est une première question, un premier point de brouillage qui est... qui est assez fort et qui mérite vraiment d'être discuté. Et puis, il amène aussi très rapidement, enfin moi je suis toujours frappé, quand on travaille à l'échelle du collège, la capacité qu'ont les acteurs, c'est un réflexe naturel, j'ai envie de dire, enfin en socio, on sait pas, le naturel n'existe pas, mais c'est un réflexe qu'on peut comprendre, expliquer, comment est-ce que, de manière un peu facile, on renvoie la difficulté de l'échec au collège vers le niveau en dessous. Ce qui, en termes de solidarité, m'interroge toujours. Hein. En clair, les instituts n'auraient pas fait leur boulot. Ah, la belle affaire. Et puis, quand vous regardez ça du côté du lycée, on va vous dire, ah, mais ces profs en collège sont vraiment nuls, hein, c'est pas possible. Bon, tant qu'on en est là, tant qu'on est dans ces espèces de brouillages-là, à se passer la patate chaude entre professionnels, on n'ira pas bien loin. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut lever. Il y a un troisième brouillage qui pose vraiment question. C'est le brouillage des publics. C'est-à-dire que quand on commence à parler avec des professionnels de ces questions-là, ils vont vous donner des exemples, ça, il n'y a pas de problème, de situations de jeunes qui décrochent. Mais je trouve quand même qu'on a une très grande difficulté à dire tranquillement les choses. C'est que quand même, dans ces publics décrocheurs, majoritairement, on a des garçons et qu'on a quand même des gamins issus des immigrations, qu'elles soient maghrébines ou subsahariennes. Donc là, il y a une espèce de brouillage par rapport à la spécificité des publics dont on traite, qui est vraiment problématique, qui doit être aussi... potentiellement pouvoir être levé. Si je reprends l'exemple de l'évaluation qu'on fait du plan de raccrochage, c'est quand même absolument dingue, puisque la région demande les noms des personnes. Alors, en termes de constitution de fichiers, je ne sais pas s'ils sont passés à la CNIL. Passons, ce sera encore une autre affaire. Mais quand on regarde les gamins qui sont pris dans ces projets de raccrochage, majoritairement, c'est des garçons au nom à consonance arabe, excusez-moi. Et les professionnels font comme si ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire qu'on ne l'aborde pas, on n'en parle pas. Et je trouve que c'est une vraie difficulté, ça. Hein. Il y a encore un autre brouillage qui est un peu liée à ça, mais sous une forme différente, c'est tout le brouillage relatif à quelles informations on peut faire circuler dans un collectif d'une communauté éducative. Et alors là, rien qu'en interne à un collège, déjà, vous allez avoir des batailles homériques entre l'AS, le CPE, les enseignants. Mais alors imaginez si vous passez entre le collège et son environnement, ce que ça peut donner. Donc ça aussi, c'est autant de points de crispation, de difficultés, de tensions qu'il faudrait arriver à lever et qui sont quand même assez difficiles à pouvoir être levées. Et puis, il y a un tout dernier point de brouillage qui peut-être pour moi est le plus fort et le plus important. C'est celui relatif au diagnostic de la situation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on a affaire à un problème multifactoriel, il va essayer de falloir poser un diagnostic multifactoriel. Et ça, on a une très grande difficulté à poser ce type de diagnostic. Et ça, c'est très dommageable parce que c'est le diagnostic de départ qui va enclencher les solutions pour remédier au décrochage. Et le diagnostic de départ n'est pas toujours le bon. N'est pas toujours le bon. Et en termes d'action derrière, c'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, bah, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire collectif, hein, entre tous ces professionnels. Bon. Alors là, c'est là que on va revenir à la critique de l'institution scolaire. Il y a quand même des trucs, moi, qui ne cessent de me frapper dans le fonctionnement de l'institution scolaire. La première chose qui me frappe, c'est qu'on a quand même affaire à une institution qui n'est pas foutue de penser, de donner ou de proposer, sauf à la marge, des espaces permettant à ces professionnels de mener un peu d'analyse de la pratique. Je rappelle que comme tout le reste du secteur éducatif, tous les travailleurs sociaux qui bossent dans l'éducatif, le principe de base, c'est de bénéficier d'une analyse de la pratique. Alors, à l'éducation nationale, c'est marginal. Donc, seule institution éducative dans ce pays qui ne bénéficie pas d'analyse de la pratique, je trouve ça proprement stupéfiant. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a une institution qui ne pense des espaces de régulation collective en son sein qu'à la marge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'institué, véritablement, hormis certains lieux de rencontre très précis, le conseil de classe. La belle affaire, hein, comme si on avait le temps d'évoquer concrètement, vraiment dans le détail, les situations des enfants. Il n'y a pas dans cette institution d'espace de régulation collectif entre toutes les professionnalités qui participent de la vie d'un établissement. Et Dieu sait que dans un collège, vous avez une somme de professionnalités différentes. Il n'y a aucun espace institué pour penser la manière dont ils pourraient échanger entre eux, sauf la machine à café ou la salle des profs. Ce qui est sympathique, mais du point de vue de l'institutionnalisation, excusez-moi, c'est très très mou et très très faible. Donc des espaces de régulation collective qui restent dans l'informel, il y a un vrai problème et une vraie difficulté pour l'institution. C'est pour ça que je pense que la question du décrochage, qui de mon point de vue oblige nécessairement à une prise en charge collective de différentes professionnalités, parce que c'est une affaire pluridimensionnel, multifactoriel, c'est une affaire qui a encore de très très beaux jours et de très très longs jours devant elle, tant que l'institution ne se saisira pas de cette question de c'est quoi les espaces de régulation collectif au sein d'un établissement? Je ne vous ai même pas parlé de l'environnement de l'établissement encore, je vous parle juste en interne. Troisième critique, rien n'empêche les enseignants de travailler sous le mode de la profession indépendante, du professionnel libéral, sans les contraintes du marché. Rien. Qu'est-ce qu'on lui demande? De remplir sa charge de service. Ah, la charge de service, c'est la clé de voûte du système, hein. Il n'y en a qu'une qui a essayé de s'y atteler. C'était en 2007, c'était Ségolène Royal. On n'a plus jamais entendu parler. Elle n'a pas été élue non plus, vous me direz. Bon. La charge de service. Qu'est-ce qu'on y met dans cette charge de service au-delà des seules heures d'enseignement? Alors, il y a une évolution avec les REP+, l'heure et demie, là, et moi, j'attends beaucoup de cette réforme-là, parce que pour une fois, là, il y a une avancée enfin déterminante qui va, j'espère, pouvoir produire des choses. Mais c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire que au-delà du fonctionnement de l'enseignant avec sa classe, ok, dont acte, il en faut, bien entendu, qu'est-ce qui est prévu ou quelles contraintes il y a autour de la nécessité de participer à des espaces de régulation collective? Il n'y en a pas aujourd'hui. Ce qui ramène à un autre système, c'est qu'on a, c'est sans doute la seule bureaucratie de ce type où les chefs d'établissement n'ont pas vraiment l'autorité sur leur personnel en termes de management. Il faudra m'expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça. Comment est-ce possible, hein? Comment est-ce possible? Ben, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si ce n'est pas possible, ça marche sur quoi? Ça marche sur le bricolage, l'investissement personnel des personnes. L'investissement personnel, ça marche sur la mobilisation personnelle. Et excusez-moi, on ne peut pas faire des politiques publiques sur la mobilisation personnelle des individus. C'est n'importe quoi, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est pour un certain nombre de critiques relatives au fonctionnement de l'institution qui pourrait prendre en charge cette question. Mais alors, ça nécessiterait un certain nombre de réformes qui, me semble-t-il, ne sont pas encore là. Alors, si je continue un peu du côté du raccrochage, moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est qu'on est un pays qui a une vraie difficulté sur ses politiques de la jeunesse. Et quand je parle de politique de la jeunesse, je pense plus large que les seules politiques de l'éducation nationale. Hein. L'éducation nationale est un des acteurs des politiques de la jeunesse, mais ce n'est pas le seul. Et on a un pays qui a un véritable problème sur ce sujet-là, c'est-à-dire qui, pendant très longtemps, a délégué ses politiques jeunesse à des mouvements d'éducation populaire, sauf que ces mouvements d'éducation populaire, ils se sont beaucoup transformés, ils sont moins vigoureux qu'auparavant, et que, quand même, globalement, quand vous regardez sur un quartier de la politique de la ville aujourd'hui, quels sont les professionnels, en dehors des enseignants, qui pourraient s'occuper des gamins qui seraient décrochés? Mais il vous reste, alors on va vous parler un bout de l'ex-MGI, de l'MLDS, mais enfin, il faut voir combien ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Il va vous rester quelques éducs de prêve quand la commune a décidé de les conserver. Et nous avons de plus en plus des communes qui souhaitent déconventionner avec les conseils généraux pour ne plus avoir prévention spécialisée et passer ça à des champs de l'animateur, des médiateurs ou des grands frères, tout ce que vous voulez. Et puis, il vous reste des gens à la mission locale qui, pour les rencontrer, prendre rendez-vous, il faut attendre un mois parce qu'ils sont submergés. Bon. Donc, le paysage, si vous voulez, il n'est pas terrible quand on rentre du côté du raccrochage. Vous dites, mais bon Dieu, mais potentiellement, mais qui peut permettre à des gamins qui sont sortis du système scolaire, donc qui vont être suivis pendant un an par l'ex-MGI, mais qui après vont plus voir d'enseignants, qui concrètement peut aujourd'hui porter ces stratégies de raccrochage? On est quand même un peu embêté parce qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est une vraie difficulté. Bon. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, il y a des volontés hein, de construction. Si on regarde les projets nous, qu'on suit là, dans le cadre du plan de la région Rhône-Alpes, il y a des projets partenariaux. Alors, c'était un prérequis pour la région hein, de porter un projet partenarial, porté soit par des missions locales, des lycées parfois, des clubs de prévention spécialisés. Et ce qui me frappe, enfin, ce qui nous a beaucoup frappé, nous, à l'étude de ces projets, puis après discussion avec leurs porteurs, c'est qu'on est quand même sur un sujet où on ne mesure absolument pas l'ampleur de la tâche. On ne mesure pas l'ampleur de la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, quand on a étudié un certain nombre de projets, on s'est rendu compte assez vite que les porteurs de projets avaient totalement sous-estimé deux grandes dimensions de leur projet. Donc, c'est pour dire qu'on a encore beaucoup de travail. C'est quoi les deux grandes dimensions qu'ils avaient sous-estimées? C'est, un, la question du temps de la construction partenariale, c'est-à-dire c'est chronophage. C'est extrêmement chronophage. Et pourtant, on se dit qu'on a affaire à des spécialistes de la jeunesse, donc ils devraient savoir qu'est-ce qu'ils font quand ils font de la construction partenariale. S'ils disent qu'il faut qu'on renforce le partenariat sur le sujet, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Ben, ils se rendent compte que ça leur prend encore plus de temps que ce qu'ils avaient pensé.
Donc là, il y a des questions à se poser. Et puis la deuxième chose tout à fait déterminante, et ce qui en dit long sur notre difficulté à nous représenter les publics, leurs spécificités, la réalité de leurs difficultés, deuxième chose qui est largement minorée, c'est le temps de l'accompagnement de ces jeunes. Un temps énorme. Alors, pourquoi un temps énorme ? Parce que, premier détail, mais vraiment tout à fait anodin dans la stratégie de raccrochage, hein, il faut commencer par construire, ce qu'on dit un grand classique du travail social, construire l'adhésion avec le jeune. Tiens, va-t'en construire l'adhésion avec un jeune qui a un parcours heurté aux institutions. Toi, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Hein. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Bon. La question, c'est qui le fait, ce boulot ? Ça peut être que du côté du travail social. Sauf que le travail social du côté de la jeunesse, je le redis, on n'a pas grand monde. Et donc, on a des véritables difficultés aujourd'hui à penser à des stratégies de raccrochage, c'est-à-dire d'aller chercher des jeunes qui sont sortis du système scolaire, donc qui ne voient plus d'enseignants. Hein, ça, là, ce n'est pas l'éducation nationale qui peut le faire, ce boulot-là. Hein. Et à un moment donné, de construire un maillage territorial partenarial sur un territoire donné et pour faire en sorte qu'à un moment donné, ils reviennent dans le système soit de la formation, soit du retour dans des lycées pour aller vers une meilleure qualification. Donc là, il y a des choses un peu compliquées qui, je trouve, sont assez sous-estimées. Alors, du côté de la réussite éducative pour des tranches d'âge inférieures, on a aussi essayé de développer des choses comme ça, mais on retombera exactement sur les mêmes thématiques. Et ça pose, je trouve, en termes de politique publique, évidemment des questions de moyens, mais vous connaissez l'actualité des moyens, il n'y en aura plus, hein, puisque tout le monde est en restriction budgétaire, donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui reste comme possibilité ? Ben, il n'y en a pas 36. C'est chaque fois essayer localement de redonner du sens collectivement entre tous ces professionnels, avec toutes les limites que je viens de pointer. Le temps de la coordination, le temps de l'accompagnement, les difficultés qui vont avec. Alors, pour finir, pour finir, il me semble que ce qui est vraiment problématique, c'est qu'on est dans un modèle de l'artisanat et du bricolage. Et quand on est dans le modèle de l'artisanat et du bricolage, l'institution, elle peut être qu'embêtée, parce que l'institution, elle n'est pas dans ce modèle-là. Et en même temps, aujourd'hui, elle ne propose rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on est dans ce modèle-là, le propre de l'artisan, c'est que c'est quelqu'un qui se construit lui-même ses outils. Un artisan, c'est quelqu'un qui se construit lui-même ses outils. Donc, si vous voulez, on est dans une situation relativement à ces enjeux du décrochage scolaire où on somme des professionnels de se construire eux-mêmes leurs outils. Et ce n'est pas toujours gagné, ce n'est pas toujours évident. Et que l'institution n'a pas grand-chose en termes d'outils aujourd'hui dans la valise. Et que donc ça va continuer à alimenter, me semble-t-il, le bricolage pour des années à venir. Après, il me semble qu'il y a des choses plus larges dont il faudrait arriver à sortir. La première, ça c'est toujours... Ça fait 25 ans que j'entends la même chose, c'est insupportable. Il faudrait sortir du pendulaire, de ce que j'appelle le pendulaire. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on nous dit deux choses contradictoires et à un moment donné, il faudrait stabiliser le discours et arrêter d'en faire une contradiction permanente. On nous dit tout le temps, et là on vient encore de le vivre, hein, caractéristique, on nous dit tout le temps, il faut considérer l'école comme un sanctuaire. Il faut absolument que l'école s'ouvre à son environnement extérieur. Ça fait 25 ans qu'on nous dit deux choses contradictoires en même temps. Ce serait bien que ça cesse. Ça ferait du bien à tout le monde. Ça clarifierait aussi qu'est-ce qu'on attend de l'environnement de l'école pour régler un certain nombre de questions. Ça, c'est un élément. Il me semble aussi, dans la suite de ce que je viens de dire sur le bricolage et l'artisanat,
qu'il faudrait sortir d'une illusion méthodologique qui a été l'illusion méthodologique des dispositifs qui se sont accumulés depuis 30 ans et dont on arrive au terme. Hein, et c'est heureux parce que ça devient illisible, notre système de dispositifs, hein, à la périphérie ou interne à l'école. Hein. Cette illusion méthodologique des dispositifs, c'est de penser qu'on pourrait dégager des bonnes pratiques à partir d'expérimentations généralisées. Mais ça, c'est une fiction totale. Il faut vraiment sortir de cette fiction. Ça n'a jamais marché. On n'a jamais pu répéter les conditions d'une expérimentation. Une expérimentation, le propre de l'expérimentation, c'est qu'elle est unique et singulière et donc elle n'est pas reproductible. Ce qu'on peut faire par contre, c'est penser les conditions de sa capitalisation, ce qui est autre chose. Hein. Mais ce n'est pas la diffusion des bonnes pratiques comme ça qui nous sortirait. Et je dis ça d'autant plus que du côté du travail social, on est vraiment actuellement en plein là-dedans. Vous avez une agence nationale de l'évaluation du secteur médico-social qui passe son temps à nous sortir des guides des bonnes pratiques. Et moi, ça me fait hurler, ça me fait peur, les guides des bonnes pratiques. Hein. Il y a quelque chose là qui m'interroge et qui m'inquiète. Il y a dans ces modes de sortie, pour conclure, là, il y a un dernier élément. Il faut qu'on arrive à sortir d'une espèce de double fatalisme. Le fatalisme sociologique, qui est de dire, bon, mais ça, c'était Bourdieu, ça a 40 ans maintenant, hein, qui est de dire, bah oui, l'école participe à la reproduction sociale et c'est comme ça. Et une fois qu'on a dit ça, bah... Voilà, en termes hein, d'enclenchement de l'action, ce n'est pas terrible. Et puis, ce que j'appelle le fatalisme territorial. Fatalisme territorial, c'est un grand classique qui revient aussi. Hein, à un moment donné, quand on est dans la panne de l'action, bah, c'est la faute du peuplement. C'est pour ça que Valls nous refait le coup du peuplement, là, comme par hasard. Excusez-moi, on a fait 10 ans de projets en rue. On a vu ce que ça a donné, le repeuplement et la mixité sociale dans ces quartiers. On a 10 ans d'expérience, là, donc on peut en parler. Donc sortir du fatalisme territorial, c'est reconnaître la spécificité des publics qu'on a en face de soi et faire avec eux, et non pas rêver d'autres publics. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Bon, ma conclusion, c'est tout le temps la même. Je fais tout le temps les mêmes conclusions. Je crois qu'il faut qu'on arrive à discuter collectivement de qu'est-ce que c'est que l'éducatif aujourd'hui. On a mal fou à le faire. Moi, ça fait 10 ans que je suis le dispositif de réussite éducative. J'ai jamais vu un échange sérieux sur qu'est-ce que, dans le cadre de ce dispositif, sur qu'est-ce que c'est qu'un acte éducatif aujourd'hui. Où est-ce qu'on parle de qu'est-ce que c'est qu'un acte éducatif aujourd'hui ? Où est-ce qu'on parle de qu'est-ce que c'est que les valeurs éducatives que nous, on souhaite colporter ? Quand est-ce qu'on en discute ? Donc on est dans un implicite généralisé où on serait soi-disant tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'éducatif, sauf que la réalité d'aujourd'hui, c'est que plus personne ne sait ce que c'est que l'éducatif. C'est bien ça notre problème quand un gamin il passe 5 heures devant les écrans, que ce soit ordinateur, tablette... Télé, il faudrait quand même qu'on se demande quels effets ça a sur eux et sur leur manière d'acquérir un certain nombre de choses. Où est-ce que c'est discuter ça ? Pour moi, discuter des valeurs, c'est déterminant parce qu'il y a un triptyque, valeurs, représentation, pratique. Si on ne part pas des valeurs, il ne faut pas s'étonner qu'après, en termes de représentation, on a des représentations croisées des publics qui sont particulièrement éloquentes ou qui posent un certain nombre de difficultés à ces constructions partenariales. Il ne faut pas s'étonner qu'avec ces représentations un peu compliquées, on a des pratiques qui en découlent, qui peuvent être largement interrogeables. Donc la toute dernière chose, c'est toujours, encore et toujours, nos conceptions de l'éducatif et du pédagogique qu'il nous faut encore et toujours clarifier collectivement. Merci de votre attention.